Honoré de Balzac. L'envers de l'histoire contemporaine. En 1836, par une belle soirée du mois de septembre, un homme d'environ 30 ans restait appuyé au parapet de ce quai d'où l'on peut voir à la fois la Seine, en amont, depuis le Jardin des Plantes jusqu'à Notre-Dame, et en aval, la vaste perspective de la rivière jusqu'au Louvre. Il n'existe pas deux semblables points de vue dans la capitale des idées. On se trouve comme à la poupe de ce vaisseau devenu gigantesque. On y rêve Paris depuis les Romains jusqu'aux Francs, depuis les Normands jusqu'aux Bourguignons. Le Moyen-Âge, les Valois, Henri IV et Louis XIV, Napoléon et Louis-Philippe. De là, toutes ces dominations offrent quelques vestiges ou des monuments qui les rappellent aux souvenirs. Sainte-Geneviève couvre de sa coupole le Quartier Latin. Derrière vous s'élève le magnifique chevet de la cathédrale. L'hôtel de ville vous parle de toutes les révolutions et l'hôtel Dieu de toutes les misères de Paris. Quand vous avez entrevu les splendeurs du Louvre, en faisant deux pas, vous pouvez voir les haillons de cet ignoble pan de maison situé entre le quai de la Tournelle et l'hôtel Dieu, que les modernes échevins s'occupent en ce moment de faire disparaître. En 1835, ce tableau merveilleux avait un enseignement de plus. Entre le Parisien, appuyé au parapet, et la cathédrale, le « terrain », tel est le vieux nom de ce lieu désert, était encore jonché des ruines de l'archevêché. Lorsque l'on contemple de là tant d'aspects inspirateurs, lorsque l'âme embrasse le passé comme le présent de la ville de Paris, la religion semble loger là comme pour étendre ses deux mains sur les douleurs de l'une et l'autre rive. Allez du faubourg Saint-Antoine au faubourg Saint-Marceau. Espérons que tant de sublimes harmonies seront complétées par la construction d'un palais épiscopal dans le genre gothique, qui remplacera les masures sans caractère assises entre le terrain, la rue d'Arcole, la cathédrale et le quai de la Cité. Ce point, le cœur de l'ancien Paris, en est l'endroit le plus solitaire, le plus mélancolique. Les eaux de la Seine s'y brisent à grand bruit. La cathédrale y jette ses ombres au coucher du soleil. On comprend qu'il s'y émeuve de graves pensées chez un homme atteint de quelque maladie morale. Séduit peut-être par un accord entre ses idées du moment et celles qui naissent à la vue de scènes si diverses, le promeneur restait, les mains sur le parapet, en proie à une double contemplation. Paris et lui. Les ombres grandissaient, les lumières s'allumaient au loin, et il ne s'en allait pas, emporté qu'il était au courant d'une de ces méditations grosses de notre avenir et que le passé rend solennel. En ce moment, il entendit venir à lui deux personnes dont la voix l'avait frappé dès le pont en pierre qui réunit l'île de la Cité au quai de la Tournelle. Ces deux personnes se croyaient sans doute seules, et parlaient un peu plus haut qu'elles ne l'eussent fait en des lieux fréquentés, ou si elles se fussent aperçues de la présence d'un étranger. Dès le pont, les voix annonçaient une discussion qui, par quelques paroles apportées à l'oreille du témoin involontaire de cette scène, était relative à un prêt d'argent. En arrivant auprès du promeneur, l'une des deux personnes, mise comme l'est un ouvrier, quitta l'autre par un mouvement de désespoir. L'autre se retourna, rappela l'ouvrier et lui dit « Vous n'avez pas un sou pour repasser le pont. Tenez » ajouta-t-il en lui donnant une pièce de monnaie. « Et souvenez-vous, mon ami, que c'est Dieu lui-même qui nous parle quand il nous vient de bonnes pensées. » Cette dernière phrase fit tressaillir le rêveur. L'homme qui parlait ainsi ne se doutait pas que, pour employer une expression proverbiale, il faisait d'une pierre deux coups. qu'il s'adressait à deux misères, une industrie au désespoir et les souffrances d'une âme sans boussole. Une victime de ce que les moutons de Panurge nomment le progrès et une victime de ce que la France appelle l'égalité. Cette parole, simple en elle-même, fut grande par l'accent de celui qui la disait et dont la voix possédait comme un charme. N'est-il pas des voix calmes, douces, en harmonie avec les effets que la vue de l'outre-mer produit sur nous? Au costume, le Parisien reconnut un prêtre, et vit aux dernières clartés du crépuscule un visage blanc, auguste, mais ravagé. La vue d'un prêtre sortant de la belle cathédrale de Saint-Étienne à Vienne pour aller porter l'extrême-onction à un mourant détermina le célèbre auteur tragique Werner à se faire catholique. Il en fut presque de même pour le Parisien en apercevant l'homme, qui, sans le savoir, venait de le consoler. Il aperçut dans le menaçant horizon de son avenir une longue trace lumineuse où brillait le bleu de l'éther, et il suivit cette clarté, comme les bergers de l'Évangile allèrent dans la direction de la voix qui leur cria d'en haut « Le Sauveur vient de naître !» L'homme à la bienfaisante parole marchait le long de la cathédrale et se dirigeait, par une conséquence du hasard, qui parfois est conséquent, vers la rue d'où le promeneur venait et où il retournait, amené par les fautes de sa vie. Ce promeneur avait nom Godefroy. En lisant cette histoire, on comprendra les raisons qui n'y font employer que les prénoms dont ceux dont il sera question. Voici donc pourquoi Godefroy, qui demeurait dans le quartier de la Chaussée-d'Antin, se trouvait à une pareille heure au chevet de Notre-Dame. Fils d'un détaillant, à qui l'économie avait fait faire une sorte de fortune, il devint toute l'ambition de son père et de sa mère, qui le rêvèrent notaire à Paris. Aussi, dès l'âge de 7 ans, fut-il mis dans une institution, celle de l'abbé Lyotard, parmi les enfants de beaucoup de familles distinguées, qui, sous le règne de l'empereur, avaient, par attachement à la religion un peu trop méconnue dans les lycées, choisi cette maison pour l'éducation de leur fils. Les inégalités sociales ne pouvaient pas alors être soupçonnées entre camarades. Mais en 1821, ses études achevées, Godefroy, qu'on plaça chez un notaire, ne tarda pas à reconnaître les distances qui le séparaient de ceux avec lesquels il avait jusqu'alors vécu familièrement. Obligé de faire son droit, il se vit confondu dans la foule des fils de la bourgeoisie, qui, sans fortune faite ni distinctions héréditaires, devaient tout attendre de leur valeur personnelle ou de leurs travaux obstinés. Les espérances que son père et sa mère, alors retiré du commerce, asseyait sur sa tête, stimulèrent son amour-propre sans lui donner d'orgueil. Ses parents vivaient simplement, en hollandais, ne dépensant que le quart de 12 000 francs de rente. Ils destinaient leurs économies, ainsi que la moitié de leur capital, à l'acquisition d'une charge pour leur fils. Soumis aux lois de cette économie domestique, Godefroy trouvait son état présent si disproportionné avec les rêves de ses parents et les siens qu'il éprouva du découragement. Chez les natures faibles, le découragement devient de l'envie. Tandis que d'autres, à qui la nécessité, la volonté, la réflexion tenaient lieu de talent, marchaient droit et résolument dans la voie tracée aux ambitions bourgeoises. Godefroy se révolta, voulut briller, alla vers tous les endroits éclairés, et ses yeux s'y blessèrent. Il essaya de parvenir, mais tous ses efforts aboutirent à la constatation de son impuissance. En s'apercevant enfin d'un manque d'équilibre entre ses désirs et sa fortune, il prit en haine les suprématies sociales, se fit libéral et tenta d'arriver à la célébrité par un livre. Mais il apprit à ses dépens à regarder le talent du même œil que la noblesse. Le notariat, le barreau, la littérature, successivement abordés sans succès, il voulut être magistrat. En ce moment, son père mourut. Sa mère, dont la vieillesse put se contenter de 2 000 francs de rente, lui abandonna presque toute la fortune. Possesseur à 25 ans de 10 000 francs de rente, il se crut riche, et l'était relativement à son passé. Jusqu'alors, sa vie avait été composée d'actes sans volonté, de vouloirs impuissants. Et pour marcher avec son siècle, pour agir, pour jouer un rôle, il tenta d'entrer dans un monde quelconque à l'aide de sa fortune. Il trouva tout d'abord le journalisme, qui tend toujours les bras au premier capital venu. Être propriétaire d'un journal, c'est devenir un personnage. On exploite l'intelligence, on en partage les plaisirs sans en épouser les travaux. Rien n'est plus tentant pour des esprits inférieurs que de s'élever ainsi sur le talent d'autrui. Paris a vu 2 ou 3 parvenus de ce genre, dont le succès est une honte, et pour l'époque, et pour ceux qui leur ont prêté leurs épaules. Dans cette sphère, Godefroy fut primé par le grossier machiavélisme des uns ou par la prodigalité des autres, par la fortune des capitalistes ambitieux ou par l'esprit des rédacteurs. Puis il fut entraîné vers les dissipations auxquelles donne lieu la vie littéraire ou politique, les allures de la critique dans les coulisses, et vers les distractions nécessaires aux intelligences fortement occupées. Il vit alors mauvaise compagnie. Mais on lui apprit qu'il avait une figure insignifiante, qu'une de ses épaules était sensiblement plus forte que l'autre, sans que cette inégalité fût rachetée ni par la méchanceté ni par la bonté de son esprit. Le mauvais ton est le salaire que les artistes prélèvent en disant la vérité. Petit, mal fait, sans esprit et sans direction soutenue, tout semblait dit pour un jeune homme, par un temps où, pour réussir dans toutes les carrières, la réunion des plus hautes qualités de l'esprit ne signifie rien sans le bonheur ou sans la ténacité qui commande au bonheur. La révolution de 1830 pansa les blessures de Godefroy. Il eut le courage de l'espérance qui vaut celui du désespoir. Il se fit nommer, comme tant de journalistes obscurs, à un poste administratif où ses idées libérales, aux prises avec les exigences d'un nouveau pouvoir, le rendirent un instrument rebelle. Frotté de libéralisme, il ne sut pas, comme plusieurs hommes supérieurs, prendre son parti. Obéir au ministre, pour lui, ce fut changer d'opinion. Le gouvernement lui parut d'ailleurs manquer aux lois de son origine. Godefroy se déclara pour le mouvement quand il était question de résistance, et il revint à Paris presque pauvre, mais fidèle aux doctrines de l'opposition. Effrayé par les excès de la presse, plus effrayé encore par les attentats du Parti républicain, il chercha dans la retraite la seule vie qui convint à un être dont les facultés étaient incomplètes, sans force à opposer au rude mouvement de la vie politique, dont les souffrances et la lutte ne jetaient aucun éclat, fatigué de ses avortements, sans amis parce que l'amitié veut des qualités ou des défauts saillants, mais qui possédait une sensibilité plus rêveuse que profonde. N'était-ce pas le seul parti que dut prendre un jeune homme que le plaisir avait déjà plusieurs fois trompé et déjà vieilli au contact d'une société aussi remuante que remuée? Sa mère, qui se mourait dans le paisible village d'Auteuil, rappela son fils près d'elle, autant pour l'avoir à ses côtés que pour le mettre dans un chemin où il trouva le bonheur égal et simple qui doit satisfaire de pareilles âmes. Elle avait fini par juger Godefroy, en trouvant à 28 ans sa fortune réduite à 4 000 francs de rente, ses désirs affaissés, ses prétendues capacités éteintes, son activité nulle, son ambition humiliée, et sa haine contre tout ce qui s'élevait légitimement, accrue de tous ses mécomptes. Elle essaya de marier Godefroy à une jeune personne, fille unique de négociant retiré, et qui pouvait servir de tuteur à l'âme malade de son fils. Mais le père avait cet esprit de calcul qui n'abandonne point un vieux commerçant dans les stipulations matrimoniales, et après une année de soins et de voisinage, Godefroy ne fut pas agréé. D'abord, aux yeux de ses bourgeois renforcés, ce prétendu devait garder, de son ancienne carrière, une profonde immoralité. Puis, pendant cette année, il avait encore pris sur ses capitaux, autant pour éblouir les parents que pour tâcher de plaire à leur fille. Cette vanité, d'ailleurs assez pardonnable, détermina le refus de la famille, à qui la dissipation était en horreur, dès qu'elle eut appris que Godefroy avait, en 6 ans, perdu 150 000 francs de capitaux. Ce coup atteignit d'autant plus profondément ce cœur déjà si meurtri que la jeune personne était sans beauté. Mais, instruit par sa mère, Godefroy avait reconnu chez sa prétendue la valeur d'une âme sérieuse et les immenses avantages d'un esprit solide. Il s'était accoutumé au visage, il en avait étudié la physionomie, il aimait la voix, les manières, le regard de cette jeune personne. Après avoir mis dans cet attachement le dernier enjeu de sa vie, il éprouva le plus amer des désespoirs. Sa mère mourut, et il se trouva, lui, dont les besoins avaient suivi le mouvement du luxe, avec 5 000 francs de rente pour toute fortune, et avec la certitude de ne jamais pouvoir réparer une perte quelconque, en se reconnaissant incapable de l'activité que veut ce mot terrible, faire fortune. La faiblesse impatiente et chagrine ne consent pas tout à coup à s'effacer. Aussi, pendant son deuil, Godefroy chercha-t-il des hasards dans Paris. Il dînait à des tables d'hôtes, il se liait inconsidérément avec des étrangers, il recherchait le monde et ne rencontrait que des occasions de dépenses. En se promenant sur les boulevards, il souffrait tant en lui-même que la vue d'une mère accompagnée d'une fille à marier lui causait une sensation aussi douloureuse que celle qu'il éprouvait à l'aspect d'un jeune homme allant au bois à cheval, d'un parvenu dans son élégant équipage ou d'un employé décoré. Le sentiment de son impuissance lui disait qu'il ne pouvait prétendre ni à la plus honorable des positions secondaires, ni à la plus facile destinée. Et il avait assez de cœur pour en être constamment blessé, assez d'esprit pour faire en lui-même des élégies pleines de fiel. Inhabile à lutter contre les choses, ayant le sentiment des facultés supérieures, mais sans le vouloir qu'il les met en action, se sentant incomplet, sans force pour entreprendre une grande chose, comme sans résistance contre les goûts qu'il tenait de sa vie antérieure, de son éducation ou de son insouciance, il était dévoré par 3 maladies, dont une seule suffit à dégoûter de l'existence un jeune homme déshabitué de la foi religieuse. Aussi Godefroy offrait-il ce visage qui se rencontre chez tant d'hommes, qu'il est devenu le type parisien. On y aperçoit des ambitions trompées ou mortes, une misère intérieure, une haine endormie dans l'indolence d'une vie assez occupée par le spectacle extérieur et journalier de Paris, une inappétence qui cherche des irritations, la plainte sans le talent, la grimace de la force, le venin de mécomptes antérieurs qui excite à sourire de toute moquerie, à conspuer tout ce qui grandit, à méconnaître les pouvoirs les plus nécessaires, se réjouir de leurs embarras et ne tenir à aucune forme sociale. Ce mal parisien est, à la conspiration active et permanente des gens d'énergie, ce que l'aubier est à la sève de l'arbre. Il la conserve, la soutient et la dissimule. Lassé de lui-même, Godefroy voulut un matin donner un sens à sa vie en rencontrant un de ses camarades qui avait été la tortue de la fable de La Fontaine, comme il en était le lièvre. Dans une de ces conversations provoquées par une reconnaissance entre amis de collège et tenue en se promenant au soleil sur le boulevard des Italiens, il fut atterré de trouver tout arrivé celui qui, doué en apparence de moins de moyens, de moins de fortune que lui, s'était mis à vouloir chaque matin ce qu'il voulait la veille. Le malade résolut alors d'imiter cette simplicité d'action. « La vie sociale est comme la terre, lui avait dit son camarade. Elle nous donne en raison de nos efforts. Godefroy s'était endetté déjà. Pour première punition, pour première tâche, il s'imposa de vivre à l'écart en payant sa dette sur son revenu. Chez un homme habitué à dépenser 6 000 francs quand il en avait 5, ce n'était pas une petite entreprise que de se réduire à vivre de 2 000 francs. Il lut tous les matins les petites affiches, espérant y trouver un asile où ses dépenses pussent être fixées, où il pût jouir de la solitude nécessaire à un homme qui voulait se replier sur lui-même, s'examiner, se donner une vocation. Les mœurs des pensions bourgeoises du quartier latin choquèrent sa délicatesse. Les maisons de santé lui parurent malsaines, et il allait retomber dans les fatales irrésolutions des gens sans volonté, lorsqu'il fut frappé par l'annonce suivante. Petit logement de 70 francs par mois, pouvant convenir à un ecclésiastique. On veut un locataire tranquille. Il trouverait la table, et l'on meublerait l'appartement à des prix modérés en cas de convenance mutuelle. S'adresser rue Chanoinesse, près Notre-Dame, à Monsieur Millet, épicier, qui donnera tous les renseignements désirables. Séduit par la bonhomie cachée sous cette rédaction et par le parfum de bourgeoisie qui s'en exhalait, Godefroy était venu vers 4 heures chez l'épicier, qui lui avait dit que Madame de la Chanterie dînait en ce moment et ne recevait personne pendant ses repas. Cette dame était visible le soir après 7 heures ou le matin de 10 heures à midi. Tout en parlant, Monsieur Millet examinait Godefroy et lui faisait subir, selon l'expression des magistrats, un premier degré d'instruction. Monsieur était-il garçon ? Madame voulait une personne de mœurs réglée. On fermait la porte à 11 heures au plus tard. Monsieur, dit-il en terminant, me paraît d'ailleurs d'un âge à convenir à Madame de la Chanterie. Quel âge me donnez-vous donc ? Demanda Godefroy. Quelque chose comme 40, répondit l'épicier. Cette naïve réponse jeta Godefroy dans un accès de misanthropie et de tristesse. Il alla dîner sur le quai de la Tournelle et revint contempler Notre-Dame au moment où les feux du soleil couchant ruisselaient en se brisant dans les arcs boutants multipliés du chevet. Le quai se trouve alors dans l'ombre quand les tours brillent bordées de lueurs, et ce contraste frappa Godefroy en proie à toutes les amertumes que la cruelle naïveté de l'épicier avait remué. Ce jeune homme flottait donc entre les conseils du désespoir et la voix touchante des harmonies religieuses mises en branle par la cloche de la cathédrale, quand, au milieu des ombres, du silence, aux clartés de la lune, il entendit la phrase du prêtre. Quoique peu dévot, comme la plupart des enfants de ce siècle, sa sensibilité s'émut à cette parole, et il revint rue Chanoinesse, où il ne voulait déjà plus aller. Le prêtre et Godefroy furent aussi étonnés l'un que l'autre d'entrer dans la rue Massillon, qui fait face au petit portail rond de la cathédrale, de tourner ensemble dans la rue Chanoinesse, à l'endroit où, vers la rue de la Colombe, elle finit par devenir la rue des Marmousets. Quand Godefroy s'arrêta sous le porche cintré de la maison où demeurait Madame de la Chanterie, le prêtre se retourna vers Godefroy en l'examinant à la lueur d'un réverbère qui sera sans doute un des derniers à disparaître au cœur du vieux Paris. « Vous venez voir Madame la Chanterie, monsieur ? » dit le prêtre. « Oui, » répondit Godefroy. « La parole que je viens de vous entendre dire à cet ouvrier m'a prouvé que cette maison, si vous y demeurez, doit être salutaire à l'âme. Vous avez donc été témoin de ma défaite, dit le prêtre en levant le marteau, car je n'ai pas réussi. Il me semble bien plutôt que c'est l'ouvrier, car il vous demandait de l'argent assez énergiquement. Hélas, répondit le prêtre, l'un des plus grands malheurs des révolutions en France, c'est que chacune d'elles est une nouvelle prime donnée à l'ambition des classes inférieures. Pour sortir de sa condition, pour arriver à la fortune, que l'on regarde aujourd'hui comme la seule garantie sociale, cet ouvrier se livre à ces combinaisons monstrueuses qui, si elles ne réussissent pas, doivent amener le spéculateur à rendre des comptes à la justice humaine. Voilà ce que produit quelquefois l'obligeance. Le portier ouvrit une lourde porte, et le prêtre dit à Godefroy. « Monsieur vient peut-être pour le petit appartement ?»«
Oui, monsieur. »
Le prêtre et Godefroy traversèrent alors une assez vaste cour au fond de laquelle se dessinait, en noir, une haute maison flanquée d'une tour carrée encore plus élevée que les toits et d'une vétusté remarquable. Quiconque connaît l'histoire de Paris sait que le sol s'y est tellement exhaussé devant et autour de la cathédrale qu'il n'existe pas vestige des 12 degrés par lesquels on y montait jadis. Aujourd'hui, la base des colonnes du porche est de niveau avec le pavé. Donc, le rez-de-chaussée primitif de cette maison doit en faire aujourd'hui les caves. Il se trouve un perron de quelques marches à l'entrée de cette tour, où monte en spirale une vieille vis le long d'un arbre sculpté en façon de sarment. Ce style, qui rappelle celui des escaliers du roi Louis XII au château de Blois, remonte au XIVe siècle. Frappé de 1000 symptômes d'antiquité, Godefroy ne put s'empêcher de dire en souriant au prêtre « Cette tour n'est pas d'hier. » « Elle a soutenu, dit-on, l'attaque des Normands et aurait fait partie d'un premier palais des rois de Paris. Mais selon les traditions, elle aurait été plus certainement le logis du fameux chanoine Fulbert, l'oncle d'Héloïse. » En achevant ces mots, le prêtre ouvrit la porte de l'appartement qui paraissait être le rez-de-chaussée et qui, sur la première comme sur la seconde cour, car il existe une petite cour intérieure, se trouve au premier étage. Dans cette première pièce travaillait, à la lueur d'une petite lampe, une domestique coiffée d'un bonnet en batiste à tuyaux gaufrés pour tout ornement. Elle ficha une de ses aiguilles dans ses cheveux et garda son tricot à la main, tout en se levant pour ouvrir la porte d'un salon éclairé sur la cour intérieure. Le costume de cette femme rappelait celui des sœurs grises. « Madame, je vous amène un locataire, » dit le prêtre en introduisant Godefroy dans cette pièce, où il vit trois personnages assis sur des fauteuils auprès de Madame de la Chanterie. Les trois personnages se levèrent, la maîtresse de la maison se leva. Puis quand le prêtre eut avancé pour Godefroy un fauteuil, quand le futur locataire se fut assis sur un geste de Madame de la Chanterie, accompagné de ce vieux mot « Essayez-vous, monsieur !» Le Parisien se crut à une énorme distance de Paris, en Basse-Bretagne ou au fond du Canada. Le silence a peut-être ses degrés. Peut-être Godefroy, déjà saisi par le silence des rues Massillon et Chanoinesse, où il ne roule pas 2 voitures par mois, saisi par le silence de la cour et de la tour, dut-il se trouver comme au cœur du silence, dans ce salon gardé par tant de vieilles rues, de vieilles cours et de vieilles murailles. Cette partie de l'île, qui se nomme le cloître, a conservé le caractère commun à tous les cloîtres. Elle semble humide, froide, et demeure dans le silence monastique le plus profond aux heures les plus bruyantes du jour. On doit remarquer d'ailleurs que toute cette portion de la cité, serrée entre le flanc de Notre-Dame et la rivière, est au nord et dans l'ombre de la cathédrale. Les vents d'est s'y engouffrent sans rencontrer d'obstacles, et les brouillards de la Seine y sont en quelque sorte retenus par les noires parois de la vieille église métropolitaine. Ainsi, personne ne s'étonnera du sentiment qu'éprouva Godefroy en comparaissant dans ce vieux logis, en présence de 4 personnes silencieuses et aussi solennelles que l'étaient les choses elles-mêmes. Il ne regarda point autour de lui, pris de curiosité pour Madame de la Chanterie, dont le nom l'avait intrigué déjà. Cette dame était évidemment une personne de l'autre siècle, pour ne pas dire de l'autre monde. Elle avait un visage douceâtre, atteinte à la fois molles et froides, un nez aquilin, un front plein de douceur, des yeux bruns, un double menton, le tout encadré de boucles de cheveux argentées. On ne pouvait donner à sa robe que le vieux nom de fourreau, tant elle y était serrée selon la mode du XVIIIe siècle. L'étoffe, en soie couleur carmélite, à longues raies vertes, fines et multipliées, semblait être de ce même temps. Le corsage, fait en corps de jupe, se cachait sous une mantille en pou de soie bordée de dentelles noires et attachée sur la poitrine par une épingle miniature. Les pieds, chaussés de brodequins en velours noir, reposaient sur un petit coussin. De même que sa servante, Madame de la Chanterie tricotait des bas et avait sous son bonnet de dentelle une aiguille fichée dans ses boucles crêpées. Vous avez vu Monsieur Millet ? Dit-elle à Godefroy de cette voix de tête particulière aux douairières du faubourg Saint-Germain, en le voyant presque interdit et comme pour lui donner la parole. « Oui, madame. »« J'ai peur que l'appartement ne vous convienne guère, » reprit-elle en remarquant l'élégance, la nouveauté, la fraîcheur de l'habillement de son futur locataire. Godefroy avait des bottes vernies, des gants jaunes, de riches boutons de chemise et une jolie chaîne de montre passée dans une des boutonnières de son gilet de soie noire à fleurs bleues. Madame de la Chanterie prit dans une de ses poches un petit sifflet d'argent et siffla. La domestique entra. « Manon, ma fille, fais voir l'appartement à monsieur. Voulez-vous, cher vicaire, y accompagner monsieur ? » reprit-elle en s'adressant au prêtre. « Si par hasard, » dit-elle en se levant de nouveau et regardant Godefroy, « le logement vous agréait, nous pourrons causer des conditions. » Godefroy salua et sortit. Il entendit le bruit de ferraille causé par les clés que Manon prenait dans un tiroir, et il lui vit allumer la chandelle d'un grand martinet en cuivre jaune. Manon alla la première, sans proférer une parole. Quand Godefroy se retrouva dans l'escalier, montant aux étages supérieurs, il douta de la vie réelle. Il rêvait tout éveillé. Il voyait le monde fantastique des romans qu'il avait lus dans ses heures de désœuvrement. Tout Parisien échappé, comme lui, du quartier moderne, au luxe des maisons et des ameublements, à l'éclat des restaurants et des théâtres, au mouvement du cœur de Paris, aurait partagé son opinion. Le martinet, tenu par la servante, éclairait faiblement le vieil escalier tournant, où les araignées avaient étendu leurs draperies pleines de poussière. Manon portait une cotte à gros plis, en grosse étoffe de bure. Son corsage était carré par derrière comme par devant, et son habillement se remuait tout d'une pièce. Arrivé au troisième étage, qui passait pour être le second, Manon s'arrêta, fit mouvoir les ressorts d'une antique serrure et ouvrit une porte peinte en couleur d'acajou ronceux grossièrement imité. « Voilà, » dit-elle en entrant la première. « Était-ce un avare ? Était-ce un peintre mort d'indigence ? Était-ce un cynique à qui le monde était indifférent ? Ou quelque religieux détaché du monde qui avait habité cet appartement ? On pouvait se faire cette triple question en y sentant l'odeur de la misère, en voyant les taches grasses sur les papiers couverts d'une teinte de fumée, les plafonds noircis, les fenêtres à petites vitres poudreuses, les briques du plancher bruni, les boiseries enduites d'une espèce de glacis gluant. Un froid humide tombait par les cheminées en pierre sculptée peinte, et dont les glaces avaient des trumeaux du XVIIe siècle. L'appartement était en équerre, comme la maison qui encadrait la cour intérieure, que Godefroy ne put voir à la nuit. « Qui donc a demeuré là ? » demanda Godefroy au prêtre. « Un ancien conseiller au Parlement, grand-oncle de madame, un monsieur de Boisfrelon. En enfance depuis la Révolution, ce vieillard est mort en 1832, à 96 ans, et madame n'a pu se décider à y mettre aussitôt un étranger, mais elle ne peut plus supporter de non-valeur. Oh, madame fera nettoyer l'appartement et le meublera de manière à satisfaire monsieur, reprit Manon. Cela dépendra de l'arrangement que vous prendrez, dit le prêtre. Vous trouverez là-dedans un beau parloir, une grande chambre à coucher et un cabinet. Puis les deux petites pièces en retour sur la cour peuvent faire une belle pièce de travail. Telle est la distribution de mon appartement au-dessous et celle de l'appartement au-dessus.
« Oui, dit Manon, l'appartement de Monsieur Alain est tout comme le vôtre, mais il a la vue de la tour. »
Je crois qu'il faudrait revoir le logement et la maison au jour, dit timidement Godefroy.
C'est possible, dit Manon.
Le prêtre et Godefroy descendirent en laissant refermer les portes par la servante qui les rejoignit pour les éclairer. En rentrant dans le salon, Godefroy, aguerri, put, en causant avec madame de la Chanterie, examiner les êtres, les personnes et les choses. Ce salon avait aux fenêtres des rideaux de vieux lampas rouges à lambrequins et relevés par des cordons de soie. Le carreau rouge bordait un tapis de vieille tapisserie trop petit pour couvrir tout le plancher. La boiserie était peinte en gris. Le plafond, séparé en deux parties par une maîtresse poutre qui partait de la cheminée, semblait une concession tardivement faite au luxe. Les fauteuils, en bois, peints en blanc, étaient garnis en tapisserie. Une mesquine pendule, entre deux flambeaux de cuivre doré, décorait le dessus de la cheminée. Madame la Chanterie avait près d'elle une vieille table à pied de biche sur laquelle étaient ses pelotons de laine dans un panier d'osier. Une lampe hydrostatique éclairait cette scène. Les quatre hommes, assis, fixes, immobiles et silencieux comme des bonzes, avaient, ainsi que madame de la Chanterie, évidemment cessé leur conversation en entendant revenir l'étranger. Tous avaient des figures froides et discrètes, en harmonie avec le salon, la maison et le quartier. Madame de la Chanterie convint de la justesse des observations de Godefroy et lui répondit qu'elle ne voulait rien faire avant de connaître les intentions de son locataire, ou pour mieux dire, de son pensionnaire. Si le locataire s'arrangeait des mœurs de sa maison, il devait devenir son pensionnaire, et ses mœurs différaient tant de celles de Paris. On vivait rue chanoinesse comme en province. Il fallait être à l'ordinaire, rentrer vers les 10 heures. On haïssait le bruit. L'on ne voulait ni femme ni enfant pour ne déranger en rien les habitudes prises. Un ecclésiastique pouvait seul s'accommoder de ce régime. Madame de la Chanterie désirait surtout quelqu'un d'une vie modeste et sans exigence. Elle ne pouvait mettre que le strict nécessaire dans l'appartement. Monsieur Alain, elle désigna l'un des quatre assistants, était d'ailleurs content, et elle ferait pour son nouveau locataire comme pour les anciens. « Je ne crois pas, dit alors le prêtre, que monsieur soit disposé à venir se mettre dans notre couvent.
« Et pourquoi pas, dit monsieur Alain, nous y sommes bien, nous, et nous ne nous en trouvons pas mal.
« Madame, reprit Godefroy en se levant, j'aurai l'honneur de venir vous revoir demain. » Quoiqu'il fût un jeune homme, les quatre vieillards et madame de la Chanterie se levèrent, et le vicaire le reconduisit jusque sur le perron. Un coup de sifflet partit. À ce signal, le portier vint, armé d'une lanterne, prendre Godefroy, le conduisit jusque dans la rue, et referma l'énorme porte jaunâtre, pesante comme celle d'une prison, et décorée de serrureries en arabesque, qui remontait à une époque difficile à déterminer. Quand Godefroy eut monté dans un cabriolet et qu'il roula vers les régions du Paris vivant, éclairé, chaud, tout ce qu'il venait de voir lui sembla comme un rêve. Et ses impressions, quand il se promena sur le boulevard des Italiens, avaient déjà le lointain du souvenir. Il se demandait, « Demain, retrouverai-je ces gens-là ? » Le lendemain, en se levant au milieu des décorations du luxe moderne et des recherches du « comfort » anglais, Godefroy se rappela tous les détails de sa visite au cloître Notre-Dame et retrouva dans son esprit le sens des choses qu'il avait vues. Les quatre inconnus, dont la mise, l'attitude et le silence agissaient encore sur lui,
devaient être des pensionnaires, ainsi que le prêtre. La solennité de madame de la Chanterie lui parut venir de la dignité secrète avec laquelle elle portait de grands malheurs. Mais, malgré les explications qu'il se donnait à lui-même, Godefroy ne pouvait s'empêcher de trouver un air de mystère à ses discrètes figures. Il choisissait du regard ceux de ses meubles qui pouvaient être conservés, ce qui lui était indispensable. Mais en les transportant par la pensée dans l'horrible logement de la rue Chanoinesse, il se mit à rire du contraste qu'ils y feraient, et résolut de tout vendre pour s'acquitter d'autant et de se laisser meubler par madame de la Chanterie. Il lui fallait une vie nouvelle, et les objets qui pourraient lui rappeler son ancienne situation devaient être mauvais à voir. Dans son désir de transformation, car il appartenait à ces caractères qui s'avancent du premier bond très avant dans une situation, au lieu d'y aller pas à pas comme certains autres, il fut pris, pendant son déjeuner, par une idée. Il voulut réaliser sa fortune, payer ses dettes et placer le reste de ses capitaux dans la maison de banque où son père avait eu des relations. Cette maison était la maison Mongenod et compagnie, établie à Paris depuis 1816 ou 1817, et dont la réputation de probité n'avait jamais reçu la moindre atteinte au milieu de la dépravation commerciale qui plus ou moins attaquait certaines maisons de Paris. Ainsi, malgré leurs immenses richesses, les maisons Nucingen et Dutillet, Keller Frères, Palma et compagnie, sont entachées d'une mésestime secrète, ou, si vous voulez, qui ne s'exprime que d'oreille à oreille. D'affreux moyens avaient eu de si beaux résultats. Les succès politiques, les principes dynastiques couvraient si bien de sales origines que personne, en 1834, ne pense plus à la boue où plongent les racines de ces arbres majestueux, les soutiens de l'État. Néanmoins, il n'était pas un seul de ces banquiers pour qui l'éloge de la maison Mongenod ne fût une blessure. À l'instar des banquiers anglais, la maison Mongenod ne déploie aucun luxe extérieur. On y vit dans un profond silence, on se contente de faire la banque avec une prudence, une sagesse, une loyauté qui lui permettent d'opérer avec sécurité d'un bout du monde à l'autre. Le chef actuel, Frédéric Mongenod, est le beau-frère du vicomte de Fontaine. Ainsi, cette nombreuse famille est alliée par le baron de Fontaine à M. Grosse-Tête, le receveur général, frère des Grosse-Tête et compagnie de Limoges, au Vandenesse, à Plana de Baudry, autre receveur général. Cette parenté, après avoir valu à feu Mongenod père de grandes faveurs dans les opérations financières sous la Restauration, lui avait obtenu la confiance des premières maisons de la vieille noblesse, dont les capitaux et les immenses économies allaient dans cette banque. Loin d'ambitionner la pairie comme les Keller, les Nucingen et les Dutillet, les Mongenod restaient éloignés de la politique et n'en savaient que ce que doit en savoir la banque. La maison Mongenod est établie dans un magnifique hôtel, entre cour et jardin, rue de la Victoire, où demeurent madame Mongenod la mère et ses deux fils, tous trois associés. Madame la vicomtesse de Fontaine avait été remboursée lors de la mort de Mongenod père en 1827. Frédéric Mongenod, beau jeune homme de 35 ans environ, d'un abord froid, silencieux, réservé comme un Genevois, propre comme un Anglais, avait acquis auprès de son père toutes les qualités nécessaires à sa difficile profession. Plus instruit que ne l'est généralement un banquier, son éducation avait comporté l'universalité de connaissances qui constitue l'enseignement polytechnique. Mais comme beaucoup de banquiers, il avait une prédilection, un goût en dehors de son commerce. Il aimait la mécanique et la chimie. Mongenod le jeune, de 10 ans moins âgé que Frédéric, se trouvait dans le cabinet de son aîné dans la position d'un premier clerc, avec son notaire ou son avoué. Frédéric le formait, comme il avait été lui-même formé par son père, à toutes les sciences du vrai banquier. lequel est à l'argent ce que l'écrivain est aux idées. L'un et l'autre, ils doivent tout savoir. » En disant son nom de famille, Godefroy reconnut en quelle estime était son père, car il put traverser les bureaux et arriver au cabinet de Mongenod. Ce cabinet ne fermait que par des portes en glace, en sorte que, malgré son désir de ne pas écouter, Godefroy entendit la conversation qui s'y tenait. « Madame, votre compte s'élève à 1 600 000 francs, au crédit comme au débit, » disait Mongenod le jeune. « Je ne sais pas quelles sont les intentions de mon frère, et lui seul sait si une avance de 100 000 francs est possible. Vous avez manqué de prudence. On ne confie pas 1 600 000 francs au commerce. » « Trop haut, Louis, » dit une voix de femme. « Ton frère t'a recommandé de ne jamais parler qu'à voix basse. Il peut y avoir du monde dans le petit salon à côté. » Frédéric Mongenod ouvrit en ce moment la porte de communication entre ses appartements et son cabinet. Il aperçut Godefroy, et il traversa son cabinet tout en saluant avec respect la personne à qui parlait son frère. « À qui ai-je l'honneur ? » dit-il à Godefroy, qu'il avait fait passer le premier. Dès que Godefroy se fut nommé, Frédéric le fit asseoir, et pendant que le banquier ouvrait son bureau, Louis Mongenod et une dame, qui n'était autre que Madame de la Chanterie, se levèrent et allèrent à Frédéric. Tous trois, ils se mirent dans l'embrasure d'une fenêtre et parlèrent à voix basse avec Madame Mongenod, la mère, à qui les affaires étaient toujours confiées. Cette femme avait depuis 30 ans donné, soit à son mari, soit à ses fils, des preuves de capacité qui faisaient d'elle un associé gérant, car elle avait la signature. Godefroy vit dans un cartonnier des cartons étiquetés « Affaires de la Chanterie » avec les numéros de 1 à 7. Quand la conférence fut terminée par un mot du banquier à son frère, « Eh bien, descends à la caisse !» Madame de la Chanterie se retourna, vit Godefroy, retint un geste de surprise et fit à voix basse des questions à Mongenod, qui répondit en peu de mots également à voix basse. Madame de la Chanterie était mise en petits souliers de prunelle noire en bas de soie gris. Elle avait sa robe de la veille et se tenait enveloppée de la beauté vénitienne, espèce de mantelet qui revenait à la mode. Elle avait une capote de soie verte, dite « à la bonne femme » et doublée de soie blanche. Sa figure était encadrée par des flots de dentelle. Elle se tenait droit et dans une attitude qui révélait, sinon une haute naissance, du moins les habitudes d'une vie aristocratique. Sans son excessive affabilité, peut-être eût-elle paru pleine de hauteur. Enfin, elle était imposante. « C'est moins un hasard qu'un ordre de la Providence qui nous rassemble ici, monsieur, » dit-elle à Godefroy, « car j'étais presque décidée à refuser un pensionnaire dont les mœurs me semblaient antipathiques à celles de ma maison. Mais M. Mongenod vient de me donner des renseignements sur votre famille qui me... »« Eh, madame, monsieur, » dit Godefroy en s'adressant à la fois à Madame de la Chanterie et au banquier, « je n'ai plus de famille, et je venais demander un conseil financier à l'ancien banquier de mon père pour accorder ma fortune à un nouveau genre de vie. » Godefroy eut bientôt, et en peu de mots, raconté son histoire et dit son désir de changer d'existence. « Autrefois, dit-il, un homme dans ma situation se serait fait moine, mais nous n'avons plus d'ordre religieux. « Allez chez madame, si madame veut bien vous accepter pour pensionnaire, » dit Frédéric Mongenod après avoir échangé un regard avec Madame de la Chanterie. « Et ne vendez pas vos rentes, laissez-les-moi. Donnez-moi la note exacte de vos obligations. J'assignerai des époques de paiement à vos créanciers, et vous aurez pour vous environ 150 francs par mois. Il faudra 2 ans pour vous liquider. Pendant ces 2 ans, là où vous serez, vous aurez eu tout le loisir de penser à une carrière, surtout au milieu des personnes avec lesquelles vous vivrez et qui sont de bons conseils. » Louis Mongenod arriva, tenant à la main 100 billets de 1 000 francs qu'il remit à Madame de la Chanterie. Godefroy offrit la main à sa future hôtesse et la conduisit à son fiacre. « À bientôt donc, monsieur, » dit-elle d'un son de voix affectueux. « À quelle heure serez-vous chez vous, madame ?»«
Dans 2 heures. »
« J'ai le temps de vendre mon mobilier, » dit-il en la saluant. Pendant le peu de temps qu'il avait tenu le bras de madame de la Chanterie sur le sien et qu'ils avaient marché tous deux, Godefroy n'avait pu dissiper l'auréole que ces mots « Votre compte s'élève à 1 600 000 francs » dit par Louis Mongenod faisaient à cette femme dont la vie se passait au fond du cloître Notre-Dame. Cette pensée « Elle doit être riche !» changeait entièrement sa manière de voir. « Quel âge peut-elle avoir ?» se demandait-il. Et il entrevit un roman dans son séjour rue Chanoines. « Elle a l'air noble. Fait-elle donc la banque ?» se disait-il. À notre époque, sur 1000 jeunes gens dans la situation de Godefroy, 999 eussent eu la pensée d'épouser cette femme. Un marchand de meubles, qui était un peu tapissier et principalement loueur d'appartements garnis, donna 3 000 francs environ de tout ce que Godefroy voulait vendre, en le lui laissant encore pendant les quelques jours nécessaires à l'arrangement de l'horrible appartement de la rue Chanoines, où ce malade d'esprit se rendit promptement. Il fit venir un peintre dont l'adresse fut donnée par madame de la Chanterie, et qui, pour un prix modique, s'engagea dans la semaine à blanchir les plafonds, nettoyer les fenêtres, peindre toutes les boiseries en bois de spa et mettre le carreau en couleur. Godefroy prit la mesure des pièces pour y mettre partout le même tapis, un tapis vert de l'espèce la moins chère. Il voulait l'uniformité la plus simple dans cette cellule. Madame de la Chanterie approuva cette idée. Elle calcula, Manon aidant, ce qu'il fallait de calicot blanc pour les rideaux des fenêtres et pour ceux d'un modeste lit en fer. Puis elle se chargea de les faire acheter et confectionner à un prix dont la modicité surprit Godefroy. Avec les meubles qu'il apportait, son appartement restauré ne lui coûterait pas plus de 600 francs. « Je pourrais donc emporter 1000 environ chez M. Mongenod. » « Nous menons ici, » lui dit alors madame de la Chanterie, « une vie chrétienne qui, vous le savez, s'accorde mal avec beaucoup de superfluité, et je crois que vous en conservez encore trop. » En donnant ce conseil à son futur pensionnaire, elle regardait un diamant qui brillait à l'anneau dans lequel était passée la cravate bleue de Godefroy. « Je ne vous en parle, » reprit-elle, « qu'en vous voyant dans l'intention de rompre avec la vie dissipée dont vous vous êtes plaint à M. Mongenod. » Godefroy contemplait madame de la Chanterie en savourant les harmonies d'une voix limpide. Il examinait ce visage, entièrement blanc, digne d'une de ces Hollandaises, graves et froides, que le pinceau de l'école flamande a si bien reproduites, et chez lesquelles les rides sont impossibles. « Blanche et grasse !» se disait-il en s'en allant. « Mais elle a bien des cheveux blancs. » Godefroy, comme toutes les natures faibles, s'était fait facilement à une nouvelle vie en la croyant toute heureuse, et il avait hâte de venir rue Chanoines. Néanmoins, il eut une pensée de prudence, ou de défiance, si vous voulez. 2 jours avant son installation, il retourna chez M. Mongenod pour prendre quelques renseignements sur la maison où il allait entrer. Pendant le peu d'instants qu'il passait dans son futur logement pour examiner les changements qui s'y faisaient, il avait remarqué les allées et venues de plusieurs gens dont la mine et la tournure, sans être mystérieuses, permettait de croire à l'exercice de quelques professions, à des occupations secrètes chez les habitants de la maison. À cette époque, on s'occupait beaucoup de tentatives de la branche aînée de la maison de Bourbon pour remonter sur le trône, et Godefroy crut à quelques conspirations. Quand il se trouva dans le cabinet du banquier et sous le coup de son regard scrutateur, en lui exprimant sa demande, il eut honte de lui-même, et vit un sourire sardonique dessiné sur les lèvres de Frédéric Mongenod. « Madame la baronne de la Chanterie, répondit-il, est une des plus obscures personnes de Paris, mais elle en est une des plus honorables. Avez-vous donc des motifs pour me demander des renseignements ?
Godefroy se rejeta sur des banalités. Il allait vivre pour longtemps avec des étrangers, il fallait savoir avec qui l'on se liait, etc.
Mais le sourire du banquier devenait de plus en plus ironique, et Godefroy, de plus en plus embarrassé, eut la honte de la démarche sans en tirer aucun fruit, car il n'osa plus faire de questions, ni sur Madame de la Chanterie, ni sur ses commensaux. Deux jours après, par un lundi soir, après avoir dîné pour la dernière fois au café anglais et vu les deux premières pièces aux variétés, il vint à 10 heures coucher rue Chanoinesse, où il fut conduit à son appartement par Manon. La solitude a des charmes comparables à ceux de la vie sauvage qu'aucun Européen n'a quitté après y avoir goûté. Ceci peut paraître étrange dans une époque où chacun vit si bien pour autrui que tout le monde s'inquiète de chacun, et que la vie privée n'existera bientôt plus, tant les yeux du journal, Argus moderne, gagnent en hardiesse, en avidité. Néanmoins, cette proposition s'appuie de l'autorité des 6 premiers siècles du christianisme, pendant lesquels aucun solitaire ne revint à la vie sociale. Il est peu de plaies morales que la solitude ne guérisse. Aussi, tout d'abord, Godefroy fut-il saisi par le calme profond et par le silence absolu de sa nouvelle demeure, absolument comme un voyageur fatigué se délasse dans un bain. Le lendemain même de son entrée en pension chez Madame de la Chanterie, il fut forcé de s'examiner, en se trouvant séparé de tout, même de Paris, quoiqu'il fût encore à l'ombre de la cathédrale. Désarmé là de toutes les vanités sociales, il allait ne plus avoir d'autres témoins de ses actes que sa conscience et les commensaux de Madame de la Chanterie. C'était quitter le grand chemin du monde et entrer dans une voie inconnue. Mais où cette voie le mènerait-elle? À quelle occupation allait-il se vouer? Il était depuis 2 heures livré à ses réflexions, lorsque Manon, l'unique servante du logis, vint frapper à la porte, et lui dit que le second déjeuner était servi, qu'on l'attendait. Midi sonnait. Le nouveau pensionnaire descendit aussitôt, poussé par le désir de juger les 5 personnes au milieu desquelles il devait passer désormais sa vie. En entrant au salon, il aperçut tous les habitants de la maison, debout, et habillé des mêmes vêtements qu'il portait le jour où il était venu prendre des renseignements.